France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Une deuxième condamnation définitive pour Nicolas Sarkozy, cette fois dans l'affaire Big Malion. 6 mois ferme pour l'ancien président qui vient à peine de sortir de la prison de la santé. Nicolas Sarkozy qui enchaîne les revers judiciaires. Nous ferons le point avec Florence Turm dans un instant. Le gouvernement recule sur la hausse annoncée de la taxe foncière, critiquée de toutes parts. Sébastien Lecornu a décidé de la suspendre, le temps de réfléchir à un nouveau mode de calcul, annonce le Premier ministre. Il n'y a pas de lien avéré entre le téléphone portable et le cancer, estime l'ANSES. Mais l'Agence de sécurité sanitaire reste prudente en raison de l'évolution très rapide des usages. Les explications à suivre de Tara Schlegel. 3 jours de grève générale en Belgique contre l'austérité budgétaire du gouvernement fédéral. Un mouvement largement suivi, notamment dans les transports. Nous irons à Bruxelles dans cette édition. Le casier judiciaire de Nicolas Sarkozy s'est donc alourdi d'une deuxième condamnation. Aujourd'hui, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ancien président dans l'affaire Big Malion. Le voilà donc définitivement condamné à 6 mois de prison ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue en 2012. En décembre 2024, dans l'affaire dite des écoutes cette fois, cette même Cour de cassation avait confirmé la peine de Nicolas Sarkozy à 1 an de prison ferme. Florence Turm, bonsoir.
Bonsoir.
L'affaire Big Malion avait été éclipsée par l'incarcération de Nicolas Sarkozy à la prison de la santé dans une troisième affaire, le dossier libyen. L'ex-chef de l'État a essuyé aujourd'hui un nouveau revers judiciaire.
Il faut rappeler d'abord que la Cour de cassation juge le respect du droit et non pas le fond du dossier. La défense de Nicolas Sarkozy avait fait valoir plusieurs arguments. L'un d'eux portait sur la composition de la Cour d'appel que la Cour de cassation a estimé régulière. Un autre sur la différence de chiffrage des dépenses entre le Conseil constitutionnel et la même Cour d'appel. Ce n'est pas problématique, indique en substance la Cour de cassation, car dans cette affaire Big Malion, certaines dépenses de campagne ont été dissimulées. Un système de double facturation et de convention fictive avait permis de quasiment doubler le plafond autorisé par la loi. Nicolas Sarkozy n'était pas mis en cause pour avoir organisé la fraude, mais pour en avoir bénéficié. En tant que candidat, il est donc définitivement condamné, conclut la Cour de cassation, de même que son ancien directeur de campagne, Guillaume Lambert, et 2 anciens directeurs de l'UMP, Éric Césari et Pierre Chassin.
Florence, Nicolas Sarkozy a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 novembre dernier. Cette nouvelle condamnation va-t-elle l'obliger à retourner en prison ?
Non, c'est une certitude, car sa condamnation en appel, 6 mois de prison ferme et 6 avec sursis, était assortie d'un aménagement de peine. Reste à savoir quelles en seront les modalités. Il est encore trop tôt pour le dire. Il appartient désormais à un juge d'application des peines de se prononcer dans les prochaines semaines. L'affaire Bismuth, l'affaire dite des écoutes, première condamnation définitive inscrite sur le casier judiciaire de Nicolas Sarkozy, lui avait valu un placement sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. Cette deuxième condamnation définitive pourrait aussi résonner dans un avenir proche. Lors du procès du présumé financement libyen de la campagne de 2007, le tribunal avait tenu compte de l'affaire des écoutes pour déterminer sa peine à 5 ans d'emprisonnement, reprocher à Nicolas Sarkozy d'avoir relativisé cette condamnation en minimisant la gravité des faits. Il avait en revanche écarté la condamnation Big Malion en raison de son caractère alors non définitif. Ce ne sera plus le cas pour le procès en appel qui s'ouvrira le 16 mars prochain.
Merci Florence Turm. C'est par le biais d'un communiqué de ses avocats que l'ancien président a réagi à cette deuxième condamnation définitive. Nicolas Sarkozy prend acte du rejet de son recours, comme il l'a toujours fait, des décisions rendues à son encontre, fin de citation. Ses avocats qui étudient la possibilité d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. La nouvelle va rassurer des millions de propriétaires. La taxe foncière n'augmentera pas dans les prochains mois. Sébastien Lecornu l'a annoncé cet après-midi au Sénat. La hausse surprise de cette taxe avait suscité un tollé dans la classe politique, presque unanime pour la rejeter. Cette mesure administrative visait à mettre à jour la méthode de calcul pour 7,4 millions de logements. Nicolas Balut, bonsoir.
Bonsoir.
Interrogé au Sénat lors des questions au gouvernement, le Premier ministre a promis une nouvelle méthode de calcul au printemps. printemps. En attendant, Nicolas, la hausse de la taxe foncière est suspendue.
Oui, Sébastien Lecornu annonce donc un changement de méthode, puisqu'une série d'éléments dits de confort ont fait artificiellement augmenter la hausse du montant de la révision de la taxe. Il faudra recalculer et reprendre un système incompréhensible qui pose le problème du consentement à l'impôt, selon le Premier ministre.
Toute approche nationale est morte-née. Donc il va falloir revenir à une approche départementale, voire même à une approche infradépartementale, voire même commune par commune, puisque lorsqu'on regarde la cartographie de cette affaire, on le voit bien qu'on est en train de traiter nationalement un sujet qui parfois n'a strictement rien à voir d'un département à l'autre. Et il peut y avoir une géographie, on va dire cela comme ça, de manière diplomatique, qui mériterait qu'on s'y penche.
Cette révision de la taxe foncière était devenue un gros caillou dans la chaussure du gouvernement, accusé en plein débat budgétaire de faire la poche des 7,5 millions de propriétaires concernés par la mise à jour des services logement du ministère de l'Économie. Ainsi, Mathilde Panot, la chef des députés insoumis, avait vite fait la comparaison avec le refus de faire contribuer les plus riches du pays, comprenez le rejet de la taxe Zucman. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'était, lui, directement adressé aux Français dans une vidéo.
Concrètement, vous bénéficiez d'une baignoire, vous êtes considéré comme un suspect et vous devrez donc payer. Vous avez le bonheur de disposer d'une douche, vous devrez payer encore. Vous avez fait installer un climatiseur pour passer l'été au frais, vous devrez encore payer. Tout est désormais prétexte à l'avalanche de taxes.
Finalement, le gouvernement avait esquissé un premier recul via une consultation sur le sujet avant de battre en retraite.
Nicolas Balu, merci. Alors, si la hausse de la taxe foncière est suspendue, la réforme des retraites, elle, ne l'est plus. Le Sénat, dominé par la droite et le centre, a annulé hier soir la suspension votée par les députés. Une suspension réclamée par le Parti Socialiste pour ne pas censurer le gouvernement Lecornu. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Stanislas.
Retour à la case départ pour la réforme de 2023. En réalité, Stéphane, la retraite à 64 ans restera en vigueur tant que le Parlement ne se sera pas prononcé définitivement sur une éventuelle suspension.
Oui, à ce stade, la réforme des retraites reste en vigueur et continue à s'appliquer. Le Premier ministre n'a jusqu'ici émis qu'une déclaration d'intention dans le cadre de négociations toujours en cours avec le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Cette réforme ne sera suspendue que si un projet de loi de financement de la sécurité sociale est définitivement adopté avant la fin de l'année et qu'il contient la suspension réclamée par les députés socialistes. En attendant, pour le moment, rien n'est fait et on ne sait pas s'il existe une majorité pour voter un tel texte. Il y a toutefois un autre cas de figure dans lequel la suspension de la réforme des retraites s'appliquerait. C'est si on dépasse les délais, si le Parlement n'a pas le temps de terminer l'examen et de se prononcer sur le projet de loi. À ce moment-là, le gouvernement a la possibilité de recourir aux ordonnances et de mettre en œuvre le projet de loi initial, celui qu'il a élaboré avant le début des discussions parlementaires. Or, ce projet de loi initial contient la suspension de la réforme des retraites, celle-ci ayant été ajoutée par lettre rectificative, avec les ordonnances donc, et même si le gouvernement est renversé par une censure de l'Assemblée, la réforme des retraites cesserait bel et bien de s'appliquer. Si en revanche les lois de finances sont rejetées par le Parlement, si notamment le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, est rejeté, à ce moment-là le gouvernement devra recourir à une loi spéciale qui reconduira en 2026 les lois de finances de l'année 2025. Et dans les lois de finances de l'année 2025, il y a la réforme des retraites qui, dans ces conditions, continuerait à s'appliquer jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que les parlementaires tentent à nouveau de se mettre d'accord sur un budget 2026. Mais ça, ce sera après les fêtes de fin d'année, en janvier et février. Et si, d'ici là, le gouvernement Lecornu n'est pas renversé.
Explication signée Stéphane Robert. La suspension, le mot du jour décidément, c'est aussi la menace qui pèse sur Chine. Après l'affaire des poupées sexuelles et des armes vendues en ligne, la plateforme chinoise était assignée ce matin devant le tribunal judiciaire de Paris. Le gouvernement demandait à la justice de suspendre pour 3 mois minimum l'accès à Chine en France. Finalement, l'audience a été renvoyée au vendredi 5 décembre à la demande de l'État qui visiblement n'était pas prêt à affronter le géant asiatique dès aujourd'hui. Aujourd'hui, Sophie Auvigne.
L'avocat représentant l'État n'avait pas un dossier complet en main, des pièces manquantes du côté des fournisseurs d'accès Internet et in extremis hier soir quelques informations provenant de Chine. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir fait des demandes en amont. Un huissier s'est même déplacé en Irlande, donc au siège européen de Chine. La plateforme, elle, s'est dit parfaitement prête à plaider, un comble pour celle qui est assignée. Peut-être également dopée par l'annonce de la procureure, elle a déjà prévenu, elle ne soutiendra pas la demande de l'État pour le blocage du site Shein en France. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement. Alors est-ce que le blocage d'un site déjà très allégé, qui ne vend plus que les vêtements de la marque Shein, est-ce que cette demande pourrait être disproportionnée? Réponse dans une dizaine de jours, le 5 décembre, jour d'une nouvelle audience.
Sophie Auvigne, Shein, qui est aussi dans le collimateur de l'Europe, la Commission européenne a adressé à la plateforme une série de demandes, car elle soupçonne le géant asiatique de présenter un risque systémique pour les consommateurs dans toute l'UE. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, publie une étude qui se veut rassurante sur les possibles effets nocifs du téléphone portable. Les ondes émises par nos smartphones ne provoqueraient pas le cancer, mais la prudence reste de mise. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Pas de lien avéré, nous dit l'ANSES, mais il faut effectivement rester prudent, notamment pour les enfants, Tara.
L'agence est saisie depuis 2016. Le ministère de la Santé cherchant à réévaluer le classement des ondes radiofréquences, ces ondes sont, selon le Centre international de recherche sur le cancer, classés B2, donc, je cite, peut-être cancérogènes. Il fallait attendre pour un nouvel avis les résultats notamment de la grande étude américaine du National Toxicology Program, publiée fin 2018, dit la lettre de mission. Pendant plus de 10 ans, les Américains ont observé l'effet des ondes sur les rats et vu un lien clair, disent-ils, entre l'exposition aux ondes et les schwannomes malins, c'est-à-dire des tumeurs cardiaques, et un niveau de preuve équivoque concernant le lien entre les ondes, à nouveau, et les gliomes, donc les tumeurs cérébrales. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres études. Le groupe de travail de l'ANSES a retenu 250 publications jugées robustes. Robustes, mais insuffisantes pour mettre en évidence un lien de causalité entre ondes et cancer, dit l'agence sur son site. Mais je vous livre aussi la conclusion de l'avis signé par le professeur Benoît Vallée, le directeur général de l'ANSES. En 2013, dit-il en substance, l'agence avait conclu à un lien possible entre exposition et risque faible de tumeur du cerveau. La mise à jour des données scientifiques met en évidence aujourd'hui que, prises dans leur ensemble, les études épidémiologiques n'apportent pas d'éléments concluants sur l'apparition de cancer chez l'humain. Et il poursuit, l'expertise aboutit à une conclusion formulée comme suit, les données disponibles ne me permettent pas de conclure à l'existence ou à l'absence d'un effet cancérogène de l'exposition aux radiofréquences chez l'humain. Autrement dit, on ne sait toujours pas, Stanislas, il faut continuer les recherches. L'ANSES rappelle toutefois qu'il faut limiter l'exposition des enfants et privilégier les kits mains libres.
Merci Tara Schlegel, spécialiste des questions de santé à la rédaction de France Culture. En Belgique, les mesures d'austérité du gouvernement fédéral de Bart De Wever ont provoqué une grève nationale de 3 jours. Le mouvement s'achève aujourd'hui. Il a largement perturbé le pays, le secteur public, le secteur privé, les transports en commun ou les aéroports un peu partout. Les piquets de grève et les actions symboliques se sont multipliés, en particulier à Bruxelles. Une forte mobilisation qui n'a pas été entamée par l'accord annoncé lundi au sein du gouvernement fédéral pour le budget 2026. Le reportage à Bruxelles de Pierre Benazé.
Dans certaines rues, surtout celles où passent les lignes de tramway, c'est le plus grand silence depuis lundi. Isabelle est conductrice de tramway depuis 15 ans à la STIB, les transports en commun de la capitale, et elle tient le piquet de grève du dépôt d'Ixelles, le district Est de Bruxelles.
Nous sommes déterminés, on veut se faire entendre face aux réformes du gouvernement. Ça va de pire en pire, ça fait déjà des années qu'on fait des efforts et que là c'est pas possible et qu'on n'est plus, nous, dans la capacité d'offrir un service de qualité auprès des voyageurs. Nous sortions d'une crise au moment du Covid, on est reparti dans une crise et maintenant on a une crise dans une crise. Pour moi c'est un peu la guerre du 21e siècle, quoi.
Et l'accord budgétaire trouvé lundi matin par le gouvernement fédéral n'a pas empêché les grévistes de se mobiliser. Cet après-midi, Gauthier, ergothérapeute en maison de repos, était à la manifestation du Mont des Arts au centre de la ville. Organisée pour soutenir le secteur culturel, elle a en fait attiré de nombreuses autres contestations.
Moi, je me demande même si l'accord, le timing de l'accord, est-ce que c'était pas dans l'idée de tuer dans l'œuf, selon la contestation. Puis il y a certaines mesures qui sont annoncées comme être des avancées, qui ne le sont pas du tout. On parle du saut d'index au-dessus de 4 000 bruts. Ça permet en tout cas aux salaires les plus bas de pouvoir s'ajuster par rapport au coût de la vie.
Pour les bas salaires, le gouvernement a décidé de maintenir l'indexation, c'est-à-dire une augmentation régulière liée à l'inflation. Mais pour le reste, les milliards d'économies prévues d'ici à 2030 sont synonymes d'austérité à long terme pour les grévistes de ce mouvement social entamé depuis janvier dernier.
Pierre Benazé, correspondant en Belgique. C'est l'un des plus petits pays africains et il est ce soir au bord du chaos. La Guinée-Bissau, coincée entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, attendait les résultats de l'élection présidentielle. En réalité, une tentative de coup d'État serait en cours. Le président sortant aurait été arrêté et les militaires contrôleraient une partie de la capitale Bissau. On fait le point avec Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale de Radio France.
En effet, les résultats n'étaient pas attendus avant demain jeudi, mais déjà deux camps se disaient vainqueurs. Le camp du président sortant, Sissoko Ambalo, aux commandes du pays depuis 2020, ainsi que le camp de Fernando Diaz da Costa, candidat indépendant soutenu par l'opposition, et notamment le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Deux candidats, deux vainqueurs, dans un pays où l'on est habitué aux coups d'État ou tentatives de coups d'État. Depuis l'indépendance du pays en 1974, on en compte en effet une dizaine, dont le dernier daté de 2023. On peut ajouter que la précédente élection présidentielle en 2019 avait débouché sur plusieurs mois de crise post-électorale. À l'époque déjà, ils étaient deux à revendiquer la victoire. Ce qui est certain ce mercredi, c'est qu'une partie de l'armée a pris le contrôle du pays. Lecture d'un communiqué par des militaires, fermeture des frontières, suspension du processus électoral, le pays assiste bien à un nouveau coup d'État.
Attention à la domination américaine et chinoise dans l'intelligence artificielle. Des chercheurs et des acteurs de la société civile ont sonné l'alerte aujourd'hui à Paris lors d'un sommet européen consacré à l'IA. L'Europe a aussi une carte à jouer, estiment les signataires de cette alerte, comme l'ONG américaine The Future Society. Elle prône une meilleure gouvernance de l'intelligence artificielle. Johan Rall dirige la branche européenne de cette ONG.
Il faut savoir que la révolution de l'IA qu'on connaît aujourd'hui, c'est d'abord une révolution de la capacité de calcul qui vient de ces semi-conducteurs qui sont développés par des grandes boîtes américaines. Et au niveau de l'ensemble de la capacité de calcul mondiale, on a 75% de cette capacité qui réside aux États-Unis, 15% au niveau de la Chine et 5% seulement en Europe. Et donc l'objet, c'est de non seulement alerter, mais aussi de proposer une troisième voie, on pourrait dire, pour que ces pays intermédiaires, la France en fait partie, le Japon, le Canada, puisse être un contrepoids qui puisse mutualiser des ressources de capacité de calcul, mais aussi mutualiser les efforts scientifiques de recherche, mutualiser les talents, les données, et tout ça au service d'une infrastructure de calcul de confiance. Et c'est ça qui peut nous différencier par rapport aux États-Unis et à la Chine qui développent de façon débridée leur modèle d'IA. On a recensé des initiatives qui existent déjà. Je pense par exemple à la collaboration entre l'Université de Bristol au Royaume-Uni et le GenSci, qui est un opérateur public en France et qui opère les capacités de calcul. Donc il y a des initiatives qui sont en cours et il y a des projets de réunions mensuelles pour créer d'autres partenariats et pour lancer un débat international pour créer cette dynamique.
Johan Rall de l'ONG The Future Society répondait à Eric Chavroux. La géopolitique de l'intelligence artificielle, c'est aussi le sujet d'une série audio de la rédaction de France Culture que vous pouvez découvrir sur notre site et sur l'application Radio France. 24,2%, c'est la part des films français réalisés uniquement par des femmes en 2024, le plus bas niveau depuis 5 ans, selon l'étude publiée aujourd'hui par le CNC, le Centre National du Cinéma. Pour le CNC, le bonus parité attribué aux films respectant ce critère ne produit plus l'effet escompté. Le président du centre a donc annoncé l'instauration d'un malus parité qui sera effectif au 1er janvier 2027. Fanny de Casimacœur est la déléguée générale du collectif 50-50 qui œuvre pour la parité homme-femme dans le milieu du cinéma et elle s'inquiète de ce plafond de verre atteint par le bonus.
C'est assez préoccupant parce que c'est quand même une mesure qui a été faite de manière assez réaliste, avec une grille de points pour justement s'adapter un petit peu à ce qui est possible dans l'industrie. Donc par exemple, il y a eu une évolution il y a quelques temps pour ajouter certains métiers comme compositrice de musique de film, etc. Et cela a été fait en prenant en compte le nombre réel de personnes qui exercent aujourd'hui dans l'industrie sur le long métrage. Donc c'est pas un bonus qui est inatteignable. Il semblerait que il est temps de passer à la vitesse supérieure sur les outils. Le CNC parle de malus. Nous, on ne connaît pas encore les détails et les contours de ce malus, donc c'est dur de se prononcer sur le côté bénéfique ou non d'une telle mesure.
Vous pensez que c'est vraiment un manque de volonté des équipes quand la parité n'est pas mise en place ?
On parle souvent d'automatisme, en fait, dans nos métiers, donc on n'a pas de système de candidature classique. On va souvent accorder notre confiance à des personnes qui nous ressemblent, avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Dans un monde où les hommes ont été majoritairement au poste clé, en fait, on répète ces automatismes-là. Pour l'instant, ces codes défavorisent des équipes plus inclusives et plus mixtes, plus paritaires.
Fanny de Casimaker du collectif 50-50 répondait à Fiona Mogadam. Le temps demain, un ciel gris et pluvieux sur la moitié nord. Au sud, les grisailles matinales devraient laisser la place à quelques éclaircies en journée. Demain matin, les faibles gelées seront généralisées en plaine jusqu'à moins 6 degrés en Auvergne et dans le Grand Est. L'après-midi, il fera entre 3 et 15 degrés du nord-est à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique, Eric Perruchot-Triboulet.